parabole du jour avec le Père Willem.
L'heure d'aujourd'hui, notre héritage. Deux attitudes paraissent essentielles à la compréhension de notre monde contemporain et qui relèvent de notre responsabilité d'Européens. La fierté et la lucidité. Nous, Européens, avons des raisons d'être fiers du passé dont nous sommes les héritiers. Nous ne mettons aucun chauvinisme dans cette déclaration. Nous ne méprisons en quoi que ce soit les civilisations passées, présentes, qui ont fleuri ou fleurissent encore ailleurs dans le monde. Nous croyons au contraire à la nécessité du pluralisme culturel. Et il est vrai que dans le passé, nous n'avons pas toujours respecté l'originalité des peuples que nous avons dominés. Il nous appartient aujourd'hui d'aller davantage à la rencontre d'autrui que nous l'avons fait jadis, dans le souci de mieux le connaître et l'aimer. Ceci dit, il faut constater, comme une donnée objective, la prodigieuse fécondité de notre Europe dans la longue durée, en personnalité exceptionnelle et en œuvre de paix. Dans son appel de Saint-Jacques-de-Compostelle de 1982, Jean-Paul II s'en émerveillait justement. En ce moment, disait-il, me viennent à l'esprit les noms des grandes personnalités, hommes et femmes, qui ont apporté splendeur et gloire à ce continent par leurs talents, leurs capacités et leurs vertus. La liste est si longue parmi les penseurs, les scientifiques, les artistes, les explorateurs, les inventeurs, les chefs d'État, les apôtres et les saints, que je ne puis que l'abréger. Aucune autre partie du monde n'est donc aussi riche que la nôtre en souvenirs artistiques. Nulle part ailleurs n'ont été accumulés au cours des âges et sur une aussi modeste territoire, autant d'œuvres peintes et sculptées, autant de bâtiments admirables, religieux ou civils, autant de productions littéraires et musicales. Une extraordinaire créativité permit à nos ancêtres de renouveler constamment, dans les difficultés de la vie et de l'histoire, les différents domaines de la culture, les thèmes, les styles et les techniques depuis l'époque gréco-romaine. D'où le coût fantastique aujourd'hui, à l'échelle européenne, de l'entretien du patrimoine, en particulier en Italie, qui est de tous les pays celui où le passé a accumulé le plus de traces insignes. D'où la piété avec laquelle nous restaurons et même reconstruisons parfois à l'identique des œuvres abîmées par le temps ou saccagées par les guerres. La cathédrale de Reims, après le premier conflit mondial, ou bien le palais royal de Varsovie après le second conflit. Voilà, nous mesurons mieux aujourd'hui qu'autrefois le prix de cet héritage immense. Parce que la rapidité des voyages permet désormais des comparaisons faciles et nous est loisible de mieux comprendre ce qui manque notamment à l'Amérique, au nord du Mexique, privé par la force des choses des productions romanes, gothiques, renaissance et baroque. Nous bénéficions donc d'un extraordinaire patrimoine culturel unique dans le temps et l'espace et qui nous crée évidemment de grands devoirs. Du moins n'est-il pas déraisonnable d'en être fier et de transmettre cette fierté par l'enseignement et l'éducation, mais à condition de ne pas la transformer en orgueil. L'important est d'en tirer parti pour construire l'avenir. Mais il nous faut malheureusement tempérer cette légitime fierté par le rappel de ce qui a été moins noble dans notre histoire et qui constitue le passif de notre héritage. La lucidité nous est nécessaire pour regarder en face les erreurs et les péchés dont l'Europe s'est rendue coupable autrefois et encore en notre temps. Les musulmans ne nous ont toujours pas pardonné les massacres qui accompagnèrent la prise de Jérusalem par les croisés en l'an 1099, et les Grecs aujourd'hui continuent de nous reprocher le sac de Constantinople en 1204 lors de la quatrième croisade. Au cours des siècles, les princes chrétiens d'Europe se sont affrontés les uns les autres dans un nombre incalculable de conflits armés. En France, les guerres de religion du XVIe siècle constituèrent une des séquences les plus noires de notre histoire. L'occupation par les Espagnols des Antilles, du Mexique et de l'Amérique du Sud provoqua l'effondrement démographique des populations autochtones. Par le traité difficile à réaliser pour que la paix vienne. Alors il y a eu la traite des Noirs. Nous, Européens, par cette traite, avons déversé outre-Atlantique des millions d'êtres humains qui ont été arrachés à l'Afrique. Le capitalisme sauvage du XIXe siècle, avec la naissance de la grande industrie, soumit les masses ouvrières, et notamment les femmes et les enfants, à des conditions de travail effroyables, certainement plus abominables que celles qui étaient faites aux esclaves de l'Antiquité gréco-romaine. Il n'est que de lire, pour s'en convaincre, les romans de Dickens. C'est encore l'Europe qui a enfanté Hitler, Lénine et Staline et entraîné la planète dans deux guerres mondiales accompagnées de génocides et qui ont, additionnées l'une à l'autre, provoqué la mort de plus de 50 millions de personnes. Cela aussi, hélas, c'est notre passé que nous ne pouvons pas gommer, que le reste du monde nous reproche, même s'il n'a pas fait mieux de son côté. Nous ne sommes pas responsables des erreurs et crimes de nos devanciers, mais il nous faut assumer les conséquences de leurs actes. Nous ne pouvons pas faire que la traite des Noirs n'ait pas eu lieu, ni oublier que l'Holocauste s'est passé sur notre sol, en Europe. Dieu merci, l'expérience cruelle des années 1870-1945 nous a enfin ouvert les yeux. À l'intérieur de la patrie européenne, les anciens ennemis se sont réconciliés. La paix règne désormais entre nous en dépit de divergences ponctuelles. Personne n'imagine plus aujourd'hui qu'un conflit armé pourrait à nouveau surgir entre la France et l'Allemagne, entre la France et la Grande-Bretagne, entre la France et l'Italie. Certes, notre Europe actuelle n'a pas encore le poids politique dont elle pourrait bénéficier, compte tenu de l'importance économique qui lui reste encore. Du moins, voyons-nous se dessiner, malgré de lourdes inerties persistantes, l'avenir commun d'une confédération européenne. Et cet avenir commun pourrait ou devrait attirer l'intérêt de la jeunesse et être porteur d'un message de paix. Or, ce message n'aura de substance et ne pourra convaincre que s'il se fonde sur les meilleurs éléments de notre héritage et de nos racines. Or, ces racines, quelles sont-elles? On peut certes discuter la question de savoir dans quelle mesure la chrétienté était authentiquement chrétienne, mais comment contester le fait que le christianisme a profondément marqué le passé de l'Europe et le marque encore aujourd'hui ?